Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. Notre invitée, elle est déjà dans ce studio, c'est la chanteuse Suzanne. Elle part en tournée avant la sortie de son deuxième album. Vous allez voir que c'est pas une petite tournée. Lisa Marie Marquez va nous dresser son portrait pré-fame. Tout ce qui est arrivé à notre célébrité avant la célébrité, c'est-à-dire même avant qu'elle s'appelle Suzanne, Marc-Antoine Lebray sera avec nous pour clore l'émission. Bonjour Suzanne.
Bonjour.
Suzanne avec un seul N, vous êtes chanteuse, autrice, compositrice, vous êtes fait connaître en 2019, c'était l'Insatisfait cette année-là. Vous aviez été l'artiste la plus présente sur la scène française avec pas moins de 200 concerts dans l'année. Je le cite parce qu'on va parler beaucoup de concerts. 2020, révélation scène aux Victoires de la Musique, sortie de votre premier album Toy Toy. Et votre actu, c'est donc une énorme tournée à venir. Alors que vous vous apprêtiez à défendre ce premier album, vous avez dû vous arrêter après 80 dates ou un peu plus à cause du confinement. Vous étiez dans quel état d'esprit et vous êtes dans quel état d'esprit désormais ?
Alors ça a été très dur, c'est vrai, au moment où la tournée s'est arrêtée, on était à 80 dates et je venais de recevoir cette révélation scène. Malheureusement, je n'ai pas pu faire de tournée ensuite, enfin en tout cas pas tout de suite, puisque mine de rien, on dit souvent qu'on a eu de la malchance pendant le Covid, mais ouais. J'ai quand même réussi à faire 268 dates. On a compté l'autre fois avec mon tourneur, donc c'est quand même assez fou. Et là, aujourd'hui, j'ai la chance de retourner sur scène, en fait, pour présenter mes nouvelles chansons. La première fois, ça s'est fait comme ça, avec Toy Toy. Je n'avais sorti aucune musique. J'étais inconnue au bataillon. Je sortais du resto dans lequel j'écrivais ces chansons. Et j'ai eu la chance de me retrouver très vite sur scène. Et donc, ça me semblait logique de faire découvrir au public qui me suit aujourd'hui. Toy Toy est disque d'or. Donc, c'est complètement fou. Merci au public. Et surtout, j'avais envie de leur présenter encore une fois ces nouvelles chansons en live, sur scène.
Mais alors, quelle va être la configuration ? Parce que quand vous avez démarré, vous étiez toute seule ou presque avec votre synthé, mais maintenant, il faut remplir les salles, il faut même remplir l'espace, et puis vous avez des moyens supplémentaires et des envies supplémentaires. On va voir quoi ?
Alors, on va voir quoi ? Je pense que je suis toujours toute seule sur scène. Hein. Franchement, c'est pas... pour moi, c'est pas... c'est un choix, c'est un vrai choix, quoi. Je danse beaucoup, donc je suis allée plus loin dans les chorégraphies, la scénographie prend beaucoup plus d'espace. Alors en fait, je suis seule sur scène, mais on sent qu'en coulisses, il y a de plus en plus de gens pour que tout ça marche. Voilà. Et donc, on a un show qui a évolué, j'espère, parce qu'on a beaucoup travaillé là-dessus. Et techniquement, en tout cas, je suis seule en scène, mais il y a plein de gens autour de moi pour que ça fonctionne. Donc j'ai hâte que le public vienne voir ça.
Ou alors peut-être vous n'avez pas envie de me raconter s'il y a des danseurs, des danseuses qui vont arriver, s'il y a des surprises ou pas des surprises. En même temps, si vous me racontez ça, si vous me dites qu'il y a une surprise, c'est plus une surprise.
Bah oui, je peux pas tout spoiler.
Qu'est-ce que vous pouvez dire ? Qu'est-ce que vous pouvez dire ?
Je peux dire en tout cas que c'est un tout nouveau show avec toutes nouvelles chansons. Donc forcément, c'est tout neuf, quoi.
Alors là, il y a ce paradoxe, c'est assez énorme, ça me rappelle les groupes des années 70 comme Led Zeppelin qui partaient en tournée aux États-Unis. Vous avez vu la comparaison un album qui n'était pas encore sorti, vous allez faire les chansons d'un album qui n'est pas sorti. Parce qu'il y a des dates, c'est long comme le bras, la tournée des festivals cet été, il y a 30 dates, je ne peux même pas toutes les citer. Ça sera quoi le répertoire ? Il y aura le premier album, Toy Toy.
Évidemment.
Et des bouts du second ou tout le second ?
Alors écoutez, moi je viens de la scène, hein, comme je dis, franchement l'histoire s'est racontée comme ça, il y a eu beaucoup de scènes et donc merci pour cette ref à Led Zeppelin, mais je peux penser aussi à Mathieu Chédid, que j'adore et que je suis souvent, et aujourd'hui il est en train de teaser son nouvel album sur scène, et l'autre fois moi j'étais au Folies Bergères, je chantais toutes les chansons, alors que l'album n'est pas sorti.
Que vous découvriez.
Exactement, et je trouve ça super en fait, parce que souvent on a tendance à être sur les réseaux, à être sur les plateformes, et c'est super parce que les gens peuvent avoir accès à notre musique, mais là de la vivre en live, de la vivre avec les vraies émotions, de les défendre en direct, je trouve que ça a une autre dimension, donc j'ai la chance de pouvoir le faire cet été avec 35 festivals, donc je vais jouer la plupart, quand même quelques chansons du deuxième album, pas toutes, histoire quand même de laisser quelques surprises, mais pas mal.
Vous aviez un look extrêmement travaillé. Cette fois-ci, ce sera quoi ? Vous n'allez pas arriver en tenue de ville ?
Ah non, toujours pas. Non. Il y a toujours des tenues qui sont travaillées. Après, je n'avais pas envie d'être emprisonnée dans une même tenue. Le but, c'était de pouvoir évoluer. Donc, il y a un styliste qui m'accompagne. C'est encore une fois un moyen de m'exprimer. L'autre fois, j'ai débarqué à Luna Festival avec des chaussettes fluo. Et j'avais des gens qui me criaient dans la foule « J'aime tes chaussettes !» J'ai adoré.
Le fétichisme de la chaussette. On va entendre un titre, il s'appelle Belladonna, qui va être sur le deuxième album. Ça parle de quoi ? Existe ou pas ?
Alors, Belladonna, elle existe toujours. Belladonna, c'est la relation toxique, c'est la personne qu'on sent toxique, mais on y va quand même. Je crois qu'on a tous connu une belladonna dans nos vies.
Vous chantez Donna, t'es spéciale, t'as des pouvoirs magiques, tu plais aux garçons, tu fais de l'effet aux filles. Et je me suis dit, ça se trouve, c'est même pas une personne, c'est peut-être quelque chose qui se fume.
Ah, oula, oui, ah ben alors ça peut.
Parce qu'en relisant le texte avec ce crible, ça fonctionne parfaitement.
Écoutez, il y a peut-être des doubles sens, des triples sens dans mes chansons, mais je n'en dirai pas plus.
J'adore ce que vous dites. Je t'ai connue par des potes, mais t'es pas fréquentable. C'est Suzanne, ça s'appelle Belladonna. On est sur Europe 1 en direct, à tout de suite. Belladonna, c'était et c'est Suzanne en direct sur Europe 1. Merci, je vais dire merci d'être là. Je pensais qu'il y avait un jingle, mais il n'y a pas de jingle. C'est de ma faute. Vous l'avez écrite quand, cette chanson et cet album? Il a été écrit quand? Vous êtes en train de le peaufiner, de le terminer, c'est bien ça?
Complètement. Je suis en train de le peaufiner, de le terminer. Il faut qu'il me ressemble, cet album. Donc voilà, je ne lâche pas les détails. Belladonna a été écrite. Elle a une histoire un peu folle, cette chanson. Elle a été écrite au début du mois. Voilà, j'avais très envie. Je me disais, bon, l'album est terminé. Mais en fait, j'avais encore cette chanson dans ma tête, alors je me suis permise de l'écrire.
Ouais.
Et puis j'ai demandé aux gens, je suis allée en studio, je l'ai un peu enregistrée, je suis allée sur les réseaux. Je leur ai dit, les gens, est-ce que je sors cette chanson? Moi, elle me plaît bien, mais est-ce qu'elle peut vous plaire? Ouais, sors-nous ça. Donc il y a eu beaucoup de commentaires, sors-la. Et puis je me suis retrouvée à la sortir et là, je la chante en festival. C'est fabuleux, il y a des énormes foules qui chantent « Belladonna ». C'est fabuleux. Voilà, donc merci au public de m'avoir soutenue à la sortir.
Il y a quand même une épaisseur dans le texte, mais ce n'est pas non plus un titre militant. Est-ce que le deuxième album va être plus festif que le premier?
Je pense que, encore une fois, comme le premier, il y a des zones où c'est festif et il y a des zones où je parle de sujets sociétaux. En effet, quand j'arrive avec un Clint Eastwood, on se doute bien que je vais parler de choses peut-être un peu plus profondes dans les textes. Alors Clint Eastwood, ça parle de plaisir féminin, ça parle d'égalité aussi, hein, mine de rien. Je pense que dans cet album, je vais aborder encore une fois le quotidien, ma vision du monde, et peut-être m'ouvrir un peu plus. À ceux qui se demandent qui est Suzanne et qui me suivent depuis le départ, peut-être que je répondrai à cette question-là.
Clint Eastwood, qu'on entendra tout à l'heure en entier dans Culture Média. Il y a une chanson de vous qui a beaucoup, beaucoup marqué les esprits, même les députés, ça s'appelle SLT. Vous le prononcez comment, SLT?
Oh, salut, SLT, ça marche, quoi. Les deux marchent.
Ça dénonce le machisme ordinaire, l'agression sexuelle, et ça commence par le harcèlement de rue. Ça commence comme ça.
Tu vas au boulot, tu marches seul. À la hauteur du H&M, il y a un type qui gueule. Salut, bonne meuf, t'es vraiment très charmante. Tu sais, je te mangerai pour 4 heures. T'es si appétissante, je te ferai pas la bise, mais si tu veux, on peut baiser. Moi, les petites meufs comme toi, j'en ferai qu'une bouchée. Ben pourquoi tu marches plus vite? Je t'ai pas agressé, je t'ai même fait des compliments. Tu pourrais au moins t'arrêter. Comment ça, t'as pas le temps? Mais t'es pas célibataire, tu sais. Moi, je suis pas jaloux, viens dans mon lit, ça va te plaire. Aussi, faut arrêter de te plaindre. Là, tu l'as bien cherché. T'as une jupe tellement courte, même pas besoin de la soulever. Les filles comme toi, c'est dangereux. Pire que le mal incarné. Et c'est moi que l'on accuse de me comporter en chimpanzé. Souffle, serre les dents, comme d'hab, tu te tais. Souffle, sois prudente, marche sur le trottoir d'à côté. T'es une pouf, c'est devenu courant de l'entendre trois fois par journée. T'as un hum, peut devenir violent si tu donnes pas le vrai. Bats-toi, fille.
Suzanne, vous mimez le morceau comme si vous étiez sur scène.
Ouais,
comme si vous étiez dedans. Vrai, non?
Oui, c'est vrai que quand j'entends cette chanson...
J'ai l'impression de vous avoir extraite de la chanson pour vous placer dans le réel et dans ce studio de radio
et
où
encore,
on est.
J'étais à deux doigts de me lever, Philippe, et de taper la choré. Mais non, mais c'est vrai qu'à force de la jouer, cette chanson a été très importante pour moi. J'ai pu la chanter aux Victoires de la Musique, d'ailleurs l'année où j'ai reçu la révélation de scène. Elle est importante pour moi aussi parce qu'elle parle à beaucoup de femmes, je crois, à beaucoup de femmes et d'hommes. Aujourd'hui, on sait qu'une femme, malheureusement, en 2022, elle n'est toujours pas en sécurité, que ce soit dehors, dans l'espace public, au travail ou même sur Internet. Et cette chanson a résonné chez énormément de femmes. Donc, je suis heureuse de l'avoir écrite, heureuse de continuer à la défendre sur scène et heureuse que le message continue à passer chez les hommes et les femmes. Et alors, je ne dis pas que les chansons changent le monde, mais peut-être qu'elles peuvent nous réunir encore une fois.
Et ça peut changer les mentalités. Et puis, cette chanson, elle a presque une résurgence. C'est un titre extraordinaire, un duo avec Grand Corps Malade, duo sur son album à lui. Ça s'appelle « Pendant 24 heures ». J'ai découvert, en préparant cet entretien, que cette chanson a une histoire et l'idée vient de vous.
Oui, effectivement. Bah en fait, la chanson a une histoire parce que déjà, il y a une belle rencontre derrière cette chanson. On était au Francofolie de La Réunion quand on s'est rencontré avec Grand Corps Malade. Il est très très grand. Donc vous savez, moi j'étais très impressionnée, alors pas que par sa taille, mais par la taille de son talent, par sa bienveillance. On a été très vite confinés tous les deux, donc on s'est chacun mis chez nous. Et puis un jour sur WhatsApp, moi je pensais à Grand Corps Malade et je me disais ce serait quand même. Je savais qu'il faisait un album pour les femmes, sur les femmes, qu'il allait appeler Mesdames. Et je lui ai dit, écoute Fabien, est-ce que ça te tenterait d'échanger nos sexes pendant 24 heures ? Et ça l'a fait marrer. Et cette chanson est née comme ça sur WhatsApp. Voilà, chacun avec notre envie de. Moi, un homme pendant 24 heures et lui une femme pendant 24 heures.
Eh bien, ça donne ça, extrait.
Je mettrai la main au cul à un pote un peu lourd pour qu'il comprenne enfin que c'est pas très glamour. Je pourrais prendre tout mon temps, pas d'horloge biologique. Si je veux pas d'enfant, personne n'en fera tout un cirque.
Je testerai tout de suite ces petites galères au féminin, l'épilation, le maquillage, perdre ses clés dans le sac à main, les talons hauts, le vernis à ongles, les rappels mensuels du corps. D'être une femme, je veux découvrir l'enfer du décor.
Je pourrais ne plus me raser, personne dira que c'est dégueu. J'aurais plus mal au ventre, à gna gna de mes deux. Je dirais bonjour patron sans qu'il me dévore des yeux. Dealer l'augmentation sans dîner amoureux. Devant ma PS4 pendant que ma meuf se plie en quatre. Je mettrai pas la table, c'est pas la fin du match. Je pisserai sur le trottoir comme le petit chien de la voisine. C'est l'avantage de la physiologie masculine.
Je vais pas vous demander si, comme dit le cliché de Grand Corps Malade, vous perdez vos clés au fond de votre sac, mais plus sérieusement, vous êtes jeune, vous avez quel âge ?
J'ai 30 ans.
Est-ce qu'on commence déjà ? Est-ce que vous subissez déjà la pression des bonnes âmes qui vous posent la sempiternelle question ? Alors, quand est-ce que tu nous fais des enfants ?
Bah, évidemment, écoutez, à 30 ans, je pense qu'une femme à 30 ans, ouais, on lui met déjà un petit peu la pression. Toutes mes copines autour commencent à avoir des enfants. Donc, et toi, c'est quand ? Écoutez, moi, je ponds des albums, j'accouche des albums. Là, pour le moment, ça me suffit amplement.
Voilà la réponse sur la ponte. Comment vous étiez avant de vous appeler Suzanne ? Parce que c'est un pseudo, je ne vais pas tout raconter. C'est le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez. Culture Média continue sur Europe 1 avec Suzanne.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média.
Philippe Blandel.
Nous sommes dans Culture Média en compagnie de la chanteuse Suzanne. On parle de son immense tournée des festivals. Ça démarre cet été et ça va durer jusqu'à 2023. On va mieux vous connaître avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez. C'est le portrait de notre célébrité avant même qu'elle soit célèbre. Bonjour Lisa Marie.
Bonjour Philippe, bonjour Suzanne.
Bonjour.
Vous êtes une conteuse d'histoires vraies sur fond d'électro, pour reprendre vos mots. Vous avez reçu la victoire de la musique Révélation Scène en 2020 avec votre premier album. Mais comment en êtes-vous arrivé là ? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Suzanne, ou plutôt Océane, votre vrai prénom, vous êtes née et vous avez grandi à Avignon. Dès l'âge de 4 ans, vous débutez la danse classique, votre première passion. D'ailleurs, vous dansez partout, tout le temps, dès qu'il y a de la musique, même au supermarché.
Non.
Oui. Vous êtes également une enfant casse-cou que l'on surnomme Nicolas Hulot, période Ushuaïa sur TF1, parce que vous grimpez partout et vous vous cassez même les dents de lait, c'est ça ?
Oui, je me casse les dents de lait. Effectivement, je grimpe partout. Bon, voilà, Nicolas Hulot, oui, pourquoi pas.
À l'école, Suzanne, vous êtes une élève parfaite, sérieuse, très populaire, toujours entourée de copains, mais un peu bavarde. Pas trop de bêtises à signaler. Bon, il vous arrive parfois d'imiter les profs. Vous êtes également une grande sœur très protectrice avec vos petits frères, particulièrement Thomas, qui a 4 ans de moins que vous. Vous n'hésitez pas à aller le défendre dans la cour de récréation au collège.
C'est vrai ? Ouais. C'était une bastonneuse.
Bah écoutez, moi quand mon petit frère se fait, je le voyais souvent parce qu'il aimait bien embêter les autres, il faut pas cacher. Donc je le voyais souvent au milieu de la cour avec plein de gens autour et je me disais merde, c'est mon frère. Bah ouais, j'allais faire mon rôle de grande sœur et j'allais le défendre effectivement. Encore aujourd'hui, hein.
Ah, vous aimez également jouer au foot et vous faites donc de la danse, je l'ai dit. Vous intégrez le conservatoire d'Avignon et vous suivez le programme Danse Études. C'est très intensif, jusqu'à 24 heures de danse par semaine, une école de la rigueur. Vous vous rêvez à l'époque danseuse étoile comme Aurélie Dupont, c'est ça ?
Complètement, complètement. Je voulais la même carrière qu'Aurélie Dupont.
Oui. Et alors ?
Et alors, bah après ça m'est passé parce que j'ai adoré danser, j'ai adoré faire des cours de danse, mais j'ai un peu moins aimé la pesée du mercredi. Voilà, mais après,
ah donc
voilà,
c'est pas une légende.
Non, c'est pas une légende. Après, c'est pas ce qui m'a fait arrêter, hein, vraiment pas. Mais j'ai ressenti que j'avais besoin de m'exprimer par le corps, par la voix, par l'écriture, par tout un tas de choses et pas que la danse.
Parmi vos influences musicales, Suzanne, on retrouve les To Be Free.
Oh ah oui, mais oui. Bah évidemment, je suis un bébé des années 90, tout le monde est passé par là.
Oui, mais est-ce que vous l'écoutez encore ? Il y a deux sortes de musique d'enfance. Il y a celle dont on a honte et celle qu'on assume et qu'on écoute toujours.
J'assume absolument. Franchement, j'assume absolument parce qu'on me met ça en soirée. Je suis nostalgique et heureuse en même temps. Franchement, voilà.
Tout pareil. Parmi vos autres influences musicales, on retrouve également Mylène Farmer que vous avez affichée en poster dans votre chambre.
À côté,
la maison, vous ne loupez jamais le hit Machine avec Charlie et Lulu. D'ailleurs, quand vous regardez les performances des chanteuses et des chanteurs, vous dites que vous voulez faire comme eux, pas juste les chorégraphies, hein, chanter aussi.
Tout, la totale. Mmh. Je veux chanter, danser, parler avec Charlie et Lulu, faire l'interview. Non, je regardais ça avec beaucoup d'attention. C'était mon rendez-vous. Fallait pas que ça parle autour. Enfin, c'était très... Je regardais le match, quoi, hein, pour regarder le Hit Machine, moi, personnellement.
Suzanne, à la maison, toujours, vous avez une iToy, une caméra fixée sur la console de jeu et vous forcez toute la famille, et même les amis de passage, à danser des heures et des heures sur cette chanson.
Oh la relou. Ah ouais, oh.
C'est quoi ?
Qui vous a raconté ça ?
C'est la Bamba de King Africa.
Oh, mon Dieu, bah, c'est un tube de l'été, mais alors d'un été, je me sens presque un peu vieille là, tu vois. Et la iToy, quoi, c'est un truc qui n'existe plus du tout. Je me rappelle, c'était les premières espèces de webcam où on dansait devant comme ça. C'était limite les prémices de TikTok, quoi.
Ouais. C'est vrai.
Fabuleux, on dansait toute la journée devant ce truc-là avec mon frère, quoi.
Suzanne, après le lycée, vous envoyez valser les études et la danse classique parce que vous avez un projet, la musique. Vous prenez d'abord la direction de Montpellier où vous vous installez. Vous êtes alors serveuse dans un diner à l'américaine chez Tommy's, ambiance Elvis Presley. Vous décidez ensuite à 25 ans de monter à Paris. Il faut que j'aille à Paris, c'est ce que vous dites à vos parents. Ils sont un peu inquiets mais vous soutiennent dans votre projet. Vous prenez des cours de chant et vous êtes en parallèle serveuse dans un restaurant, le rez-de-chaussée, pile en face de chez vous. Vous commencez à composer, à écrire des musiques parfois inspirées par les clients que vous servez au restaurant, je crois.
Oui, au départ, c'est vrai que j'ai très envie d'écrire. L'écriture est très urgente, je la ressens urgente et je suis serveuse à ce moment-là. Donc... Je bosse le midi, le soir, et donc tous ces gens que je vois au resto m'inspirent, quoi, forcément. Quoi. Il y a pas mal de chansons qui sont nées dans ce resto-là, et ce resto-là m'inspire encore un peu, puisqu'il y a des chansons dans le deuxième album où je me suis remise à ce départ-là, quoi, dans ce lieu-là.
Suzanne, c'est ce nom de scène que vous choisissez, le prénom de votre arrière-grand-mère auquel vous avez ôté un N. Vous êtes déterminée à faire de la musique, parfois un peu découragée à vous demander ce que vous faites et si ça va marcher, mais vous persistez et vous faites bien. Vous envoyez des maquettes et ça marche. En 2018, alors que vous n'avez fait qu'un seul concert dans votre vie et pas encore sorti de disque, Feder vous repère et vous choisit pour faire sa première partie à l'Olympia. Suivront des clips qui vont exploser sur Internet et une musique, votre musique, des chansons à texte sur fond d'électro qui vont faire vibrer le public, hypnotisé par votre énergie. La suite, on la connaît et moi, je m'arrête là.
Merci beaucoup, Lisa-Marie Marquez. Mais il y a un titre, dans le premier album qui fait référence au resto.
Oui, il y a un titre qui fait référence au resto qui s'appelle Suzanne, tout simplement, où je me présente. Hein, je dis que j'écris des chansons dans un resto et que mon rêve, c'est d'aller à l'Olympia. On sait aujourd'hui que l'Olympia est programmée, donc c'est... Enfin, moi-même, je suis toujours obligée de toucher des trucs ou de me pincer moi-même pour... arriver à me dire que c'est arrivé pour de vrai. Quoi.
Dans le diner, vous tapiez du rock à la façon Elvis, Milassi ?
Alors non, je ne pouvais pas trop, sinon je me faisais virer. Mais, mais sinon, je le regardais beaucoup dans les écrans et je me disais, j'étais avec mes burgers, je me rappelle, dans les mains, et je me disais, tu dois danser, tu dois revenir à tout ça, c'est ça que tu veux, c'est ça. C'est Elvis qui m'a donné envie de démissionner et d'arriver à Paris, mine de rien, merci à lui. Hein.
Merci Elvis. et ça fait une petite référence à Lisa-Marie.
Eh oui,
oui. C'est pas pour rien que j'ai dit ça. Lisa-Marie Marquez, vous revenez demain. Suzanne, vous restez. Culture Média continue.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Suzanne, elle est en tournée, la tournée des festivals tout cet été. Il y a deux titres. Un titre qu'on a déjà entendu. Un autre qu'on va entendre, Clint Eastwood. On va lui parler de cette chanson, ce qui se passe autour de cette chanson. On va parler de littérature. Vous êtes une grande lectrice, Suzanne ?
J'aime bien lire. Il faudrait que je lise un peu plus là avec la tournée. Mais pour me coucher, ouais, c'est pas mal.
Nicolas Carreau, bonjour.
Bonjour.
Ce matin, c'est un roman historique dont vous allez nous parler, en jugé par la couverture, on va dire, une croix gammée. Voilà. Alors, joyeux, ça démarre bien, on est bien dans l'ambiance.
Presque un roman historique, c'est ce qu'on appelle de la narrative non-fiction, de la non-fiction narrative. Un roman historique, c'est de la fiction. Là, c'est un roman vrai, une enquête journalistique, mais rédigée à la manière d'un roman, avec les techniques d'un roman. Et effectivement, la couverture est efficace. Ça s'appelle « Seul pour tuer Hitler » de Jean-Baptiste Naudet. Chez Novice, on voit une croix gammée, mais dont les branches sont cassées et qui laisse deviner au centre une croix chrétienne et un petit bonhomme à côté.
Et qui est ce petit bonhomme ?
C'est Maurice Bavaud, un ancien séminariste suisse. Il a 22 ans, c'est un type brillant, pacifiste. Il est francophone, il ne parle pas allemand. Et en 1938, à Munich, il a tenté d'assassiner Hitler parce qu'il a deviné le monstre qu'il était.
Évidemment, mais on connaît la suite, donc il a raté son coup.
Effectivement, on sait bien, puisque donc Hitler est advenu, mais c'est pas le problème, c'est pas l'enjeu du roman. Ce qui est romanesque et trépidant, c'est sa recherche, sa traque d'Hitler dans une Allemagne infestée de Gestapo. Jean-Baptiste Naudet a entendu parler de Maurice Bavaud par hasard lors d'un reportage, il est journaliste à l'Obs, dans la ville natale d'Hitler, et il a fouillé les documents, les archives. Certains sont d'ailleurs retranscrits tels quels dans le livre pour retracer le parcours de cet homme jusqu'à sa défaite. Et je ne vous dis pas comment et pourquoi il a échoué, mais c'est assez fou. Ça commence par la tentative d'attentat, le livre, et ensuite, flashback, on s'intéresse à la jeunesse de Maurice Bavaud, d'où il vient, comment il est arrivé au séminaire, il voulait devenir missionnaire. C'est un type doux, un pacifiste, j'ai dit un non-violent, et on voit comment petit à petit, il fomente ce projet d'attentat, comment ça lui paraît être la seule chose à faire, notamment d'ailleurs via les textes de philosophie et biblique, et un de ses amis aussi qui lui parle, qui connaît très bien, et qui est de la géopolitique, et qui lui parle du danger Hitler, qui le convainc de le tuer. Ça devient une obsession pour lui, n'est pas dans l'impulsivité. Il prend son temps, il se documente, il lit les écrits, la presse nationale socialiste, il réfléchit à la manière d'approcher Hitler, il doit se procurer une arme aussi, s'entraîner, parce qu'il n'y connaît rien du tout.
Donc c'est pas non plus un illuminé qui fait n'importe quoi.
Exactement, c'est ce que je veux dire. C'est un type intelligent, déterminé et conscient, mais donc l'attentat va échouer. Et je vous dis pas comment, mais bien entendu, il va subir la vengeance des nazis. On alterne entre récits romanesques et histoire. On assiste à la nuit de cristal, à l'ascension inéluctable d'Hitler. C'est un livre très bien construit, très clair, court aussi, 180 pages. Très très bon. Et alors je suis allé voir, j'ai pas pu m'empêcher, faut pas trop faire ça, faut pas aller voir la fiche Wikipédia par exemple, mais moi je suis allé juste voir la photo du type, c'est Ryan Gosling quoi. Il est magnifique, c'est une sorte d'acteur américain.
Le scénariste.
Très, 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 très beau. Ouais. Ça ferait aussi un film assez sublime. Je pense.
Merci beaucoup Nicolas Caro. 180 pages, Nicolas l'a dit, ça se lit vite, ça peut être bien pour le tourbus.
Carrément.
Ouais.
Carrément.
C'est le genre de lecture que vous lisez ou pas du tout ?
Ah bah ça a l'air. Enfin moi là j'étais déjà captivée par le résumé, par le synopsis. Donc oui complètement.
On va entendre un titre de vous. Je l'ai promis. On va l'entendre. Vous en avez parlé. C'est Clint Eastwood. La chanson chante le plaisir féminin. Les paroles sont pas tout à fait explicites tout en l'étant quand même. En même temps qu'elles ne sont pas très faciles à identifier. C'était un choix exprès. C'est un peu vaporeux. Il y a des échos. Il y a des effets.
Ouais, complètement. Ouais, j'avais envie de poésie quoi dans les mots, mais je pense qu'on comprend quand même ce que je raconte. Mais écoutons-la.
Pas tout de suite
non,
parce que j'ai deux questions. Je vais dire pourquoi.
Non,
parce que j'ai deux questions. Dans le clip, il y a des guests.
Oui.
Victoria Abril qui se donne du plaisir dans son lit. Elle n'est pas la seule. Qui d'autre dans le clip ?
Alors il y a Victoria Abril évidemment. Il y a Deborah Lukumena. Il y a Kit Picamoles. Et là où c'était important pour moi et pour la réalisatrice Charlotte Abramoff, c'était de montrer toutes les femmes de tout âge, de toute corpulence. Encore une fois, je pense que la richesse des femmes se trouve dans leurs différences. Et notamment Victoria Abril, on a été très heureuse qu'elle accepte, parce qu'on trouve qu'on s'est parlé de ça avec Charlotte. On se disait que souvent les actrices, on les voit quand elles sont belles et jeunes. Elles ont des rôles où elles donnent envie, où elles sont désirables, etc. Et après, pendant un laps de temps, on les voit plus du tout. Jusqu'au moment où elles reviennent, elles ont les cheveux gris, elles sont dans des rôles de grand-mère. Et... c'est plus, voilà, la femme a une date de péremption, entre guillemets, dans le fait d'être désirable,
dans
mais aussi
cinéma.
Pour son propre plaisir, voilà.
Et surtout dans
le cinéma.
Cinéma
et ça... même à la télé, enfin, dans les représentations en général.
Ouais.
Et donc, on voulait montrer que toutes les femmes, qui n'avaient pas d'âge pour tout ça, quoi.
Question très importante, quand on regardait le clip sur YouTube, il faut aussi identifier, prouver qu'on a plus de 18 ans, alors qu'il n'y a pas d'image dénudée, vous l'avez pris comment ?
Alors, ça a été un peu compliqué au départ d'admettre cette censure, cette limitation. On se dit que c'est assez incohérent dans une société où on voit constamment les femmes, le corps des femmes qui est sexualisé, objectivé, de se dire aujourd'hui qu'un clip qui parle de plaisir féminin avec beaucoup de douceur, beaucoup de poésie, des lumières, etc., il n'y a rien de choquant, aujourd'hui soit difficile d'accès. Enfin, je pense qu'un jeune aujourd'hui va beaucoup plus rapidement sur une vidéo pornographique sur Internet que sur notre clip Clint Eastwood. C'est un peu dommage, je trouve, et assez incohérent.
La seule bonne nouvelle, c'est que ça fait parler. La preuve, j'en parle. Clint Eastwood, c'est Suzanne sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de la chanteuse Suzanne, je suis ravi d'annoncer cette immense tournée qui va démarrer le 3 juillet. Ce sera Saint-Malo-du-Bois. Il y a plein de festivals. J'adorerais dire le titre de votre nouvel album, mais je ne le connais pas. Je ne connais pas non plus la date de sortie, donc je ne veux pas spoiler. Je vais parler. Vous êtes une gameuse ou pas du tout ?
Pas tellement. Je pense que je me prends souvent des raclées quand on joue dans le tourbus et ouais. Le soir, je tente, mais je gagne très rarement.
Quand on perd, ça dégoûte. Bonjour Caroline Speller.
Bonjour Philippe, bonjour Suzanne.
Vous allez nous parler de lièvres et de tortues, mais ce ne sont pas les personnages de La Fontaine, mais des héros incontournables de la pop culture.
Alors, ces lièvres sont plus précisément des lapins blancs, rondouillés, aux yeux bleus, hyperactifs, reconnaissables grâce à ce cri. Oui, donc ce sont les lapins crétins ouais. Et depuis leur apparition en 2006 dans nos consoles, impossible d'échapper à leur invasion. Jeux vidéo, dessins animés, BD, attractions au Futuroscope, cette fois-ci les lapins envahissent le château de Versailles. En partenariat avec l'éditeur français Ubisoft, le château de Versailles propose une application mobile gratuite, utilisable uniquement dans ses jardins. En explorant les jardins pour débusquer le lapin Louis XIV, on déclenche 10 mini-jeux, dont 8 en réalité augmentée. Par exemple, vous regardez le parterre d'eau à travers votre téléphone et là apparaît sur votre écran des montgolfières de Versailles qu'on dégomme à coups de fronde. Mais cette application est aussi pédagogique. À chaque jeu, on débloque une anecdote, je vais y arriver, historique, comme sur la taupière ou l'orangerie. Les lapins crétins à Versailles est une belle manière pour les enfants et les familles de visiter un lieu historique, tout en s'amusant. C'est disponible sur iOS et Android.
Avec les vraies images de Versailles qui ont été synthétisées.
Alors non, en fait, comme je le disais, c'est que vous prenez votre téléphone, du coup, avec la caméra, vous voyez le décor réel et du coup, est intégré... des images en 3D, donc on voit des lapins, donc les montgolfières, ça peut être plein de
compris. Choses. Et donc le prochain héros de jeu vidéo, c'est donc une tortue.
Pas une, Philippe, mais 4 tortues new-yorkaises formées aux arts martiaux, nommées ouais. Raphaël, Michelangelo, Donatello et Leonardo, et qui ont une passion, les pizzas, c'est...
Les tortues ninja.
Alors d'abord, personnage de comics, les Tortues Ninja sont...
Il est un peu énervé ce générique, non?
Mais non, mais c'est le générique du dessin, les mecs!
Non, c'est vrai.
Philippe
hein. Non, il est... Ouais. Il donne envie, quoi, ouais. De se réveiller le matin.
Kowabunga, quoi. Donc en fait... Personnages de comics, les Tortues Ninja sont incontournables depuis les années 90. Tous les enfants de l'époque connaissaient le dessin animé et avec le succès sont arrivés forcément les jeux vidéo. Dotemu, le studio français spécialisé dans les jeux rétro, sort Tortues Ninja, la revanche de Shredder, un jeu pour titiller notre nostalgie.
Et donc là, ça rend hommage aux jeux vidéo des années 90.
Et aussi aux dessins animés. Oui, parce que c'est un jeu ultra coloré, en 2D, avec des effets psychélisés. On incarne une des 4 tortues, le maître Splinter, le rat, si vous voyez à peu près comment il est. Ou April, la journaliste humaine. Notre but, mettre à mal les nouveaux plans de leur ennemi juré, Shredder. Shredder's Revenge est ce qu'on appelle un beat'em up. Le seul moyen d'avancer, c'est de vaincre la vague d'ennemis qui apparaît à l'écran et de battre le boss en fin de niveau. Dans le métro, sur les toits des immeubles, on se bat avec des katanas, des sailles ou une canne. On enchaîne les coups, on projette nos ennemis, on utilise le décor comme les caddies ou les bidons explosifs. Revenge Shredders est une vraie déclaration d'amour aux chevaliers d'écailles. C'est un vrai festival de pif et de paf jouissif, jouable jusqu'à 6 joueurs en local ou en ligne. C'est disponible sur toutes les consoles au prix de 25€ en téléchargement et à 40€ en version boîte fin juillet.
Merci beaucoup Caroline Speller, ça vous parle les tortues ninja?
Ah bah complètement, là j'étais presque retournée dans les années 90 là, en l'écoutant parler des tortues ninja. Ouais.
Vous y jouiez ou c'était le dessin animé?
Alors je regardais vachement le dessin animé moi, mais là j'ai presque envie de jouer au jeu et je pense que ça va plaire aux enfants, mais ça va surtout plaire aux trentenaires qui regardaient ça à l'époque.
Quarantenaires
même,
plus, hein.
Je peux aller plus loin.
Donc en gros ça va plaire à votre équipe dans le bus?
Ah complètement, je pense qu'on va prendre ce jeu dans le bus, oui, à fond.
La tournée de Suzanne continue, Culture Média continue, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
En compagnie de Suzanne qui part, qui s'apprête à avoir un été studieux et musical puisque c'est une grosse tournée avec le tourbus et des jeux vidéo à l'intérieur. vous serez au festival Écosystème, ça s'écrit E-C-A-U, c'est assez rare pour te signaler, mais on sent la tonalité Écosystème. Ce sera le 30 juillet à Gignac, c'est un festival engagé qui parle d'écologie. Vous allez seulement chanter, vous allez aussi prendre la parole.
Je pense que je vais y chanter, j'espère pouvoir y prendre la parole aussi, échanger avec des gens qui s'activent autour de toutes ces questions. Et voilà, j'ai hâte d'y aller, ça va être ma première fois et je suis contente de savoir qu'il y a de plus en plus de festivals qui s'engagent et qui font en sorte que voilà, les gens se réunissent pour des belles causes.
Je pense à votre titre, Il est où le SAV? On en entend quelques notes et je voudrais qu'on en parle et qu'on parle du clip et du concert que vous avez donné à ce propos-là. Il est où le SAV, Suzanne?
On a cassé la planète, il est où le SAV? On a cassé la planète et ça tout le monde savait.
Dans la vie y'a des cactus, et sur ce même cactus depuis y'a du plastique. Aïe, sur les plages de Koh Lanta, derrière les candidats, c'est pas si idyllique. Y'a des pailles McDo qui sirotent sur l'eau coca plastique qui flotte sur le Pacifique. Un Capri Sun à la dérive qui finit sur la rive dans la bouche d'une tortue. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe.
On a cassé la planète, il est où le SAV? On a cassé la planète et ça tout le monde savait.
J'adore le retour de l'accent d'Avignon. Ça se réchauffe.
Ouais, ça se réchauffe. Ouais, moi, je l'entends pas, ça, mais c'est vrai que. Ouais, c'est vrai, sûrement.
Pour ce titre, vous avez tourné un clip dans une décharge en Afrique. Racontez quelle décharge et pour quelle raison, pourquoi là-bas?
Alors, pourquoi là-bas? Déjà, cette chanson est née en Chine. J'étais en tournée en Chine. J'étais dans un bus qui m'emmenait tous les jours dans des villes différentes. Et j'étais toujours suivie par cette espèce de gros smog tout noir au-dessus de ma tête.
Le smog, c'est une espèce de brouillard.
Ouais, une espèce de brouillard. Alors, non, ce n'était pas un nuage, c'était juste de la pollution. Donc, j'ai commencé à gratter cette chanson en Chine. Elle m'a emmenée au Sénégal, à Dakar. Enfin, elle m'a emmenée. On a fait le choix. J'ai fait le choix de montrer une poubelle géante. Des poubelles géantes, malheureusement, dans ce monde, il y en a beaucoup, beaucoup. Il y en a en France. Mais on ne m'a pas laissé tourner en France, donc je suis allée au Sénégal, à Dakar précisément, dans la décharge de Mbebus, qui fait à peu près la taille du Marais et qui est une poubelle géante
La taille du Marais à Paris, j'ai noté ouvert, ouais. 114 hectares, pardon, mais ça fait 228 terrains de foot
énorme.
Décharge.
Moi, je suis arrivée là-bas, je ne vous cache pas que j'ai pleuré. J'ai pleuré de me dire que c'était l'enfer sur Terre. Il y avait des déchets électroniques, des animaux morts, il y avait une puanteur extrême.
Et pour en faire des sujets là-dessus, horrible. Martin Veil était venu une fois, le journaliste. Oui. Il y a beaucoup, beaucoup de déchets européens qui partent en Afrique parce que les Européens n'en veulent pas.
Exactement.
Ça accueille toute la misère du monde, toute la misère poubellière du monde, si j'ose ce néologisme.
J'avoue que quand je suis arrivée dans Mbebus et quand on m'a dit voilà, tous ces déchets-là, les déchets électroniques notamment, tous nos portables, etc., nos ordinateurs, ça se retrouve ici. Oui, j'avais honte parce que je fais partie de ces gens qui consomment et quand on voit à la fin que ces déchets-là sont ramassés par des enfants à main nue qui ne sont pas scolarisés et qui peuvent se nourrir qu'avec ces choses-là, enfin, les causes à effet sont horribles et on se dit mon Dieu.
Pendant le confinement, les salles de spectacle étaient fermées. Vous avez donné un concert payant en live stream sur MyCanal en direct depuis la mer de glace. Vous n'êtes pas monté en hélico?
Ah bah non,
je pose
non.
La question, je connais la réponse.
Quand même,
hein.
Ce serait horrible de monter en hélico. Bah non, justement, on voulait montrer cette mer de glace, on voulait montrer son état qui est quand même pas fabuleux, ça fond.
Il y a de moins en moins de glace et de plus en plus de cailloux.
Exactement, donc là c'était plutôt une mer de cailloux et évidemment nous y sommes allés à pied, ça a été une rando très compliquée, je vous cache pas, mais on est allé au bout.
Et je vais le dire parce que c'était un concert payant dont les bénéfices ont été reversés à la fondation Good Planet du photographe Yann Arthurs Bertrand. Je vais le citer à propos, on va recevoir Christophe Blain, auteur de la BD qui s'est le plus vendue cette année, extraordinaire sur cette thématique. Ça s'appelle Le Monde sans fin. Comment vous avez vécu le confinement? Vous êtes retourné habiter chez les parents?
Oui, je suis retourné habiter chez les parents. C'était particulier. Mais bon, j'ai quand même pu écrire des chansons, faire ma réédition et très vite retourner en concert. J'essaye d'occulter cette période. Je ne vous cache pas que j'essaye
de
l'oublier.
C'est dommage, j'ai quatre questions dessus. Donc, voilà.
Ah mince.
Vous avez dit, l'arrêt était brutal, tu ne vois plus personne, tu rentres chez tes parents. J'avais l'impression de m'être fait plaquer alors que ce n'était pas le cas.
Clairement, franchement, j'avais l'impression de m'être fait plaquer complètement.
Et votre frère qui me dit, quand est-ce que tu reviens, bim, ça y est, vous êtes revenu.
Ah voilà, je suis revenu. Donc lui, il voulait que je reste, mais sorry, il fallait que je reprenne un petit peu la vie, quoi.
C'est dans cette belle chanson qui raconte votre ville d'Avignon, dont le titre m'échappe à l'instant, ça s'appelle
La vie dolce.
Juste un mot, vous avez fait des concerts en Chine?
J'ai fait des concerts en Chine.
Qui sont les gens qui viennent vous voir? C'est une communauté française ou c'est des Chinois qui
Alors,
sont pris d'amour?
Il y avait des Chinois,
ben,
j'ai posé la même question en arrivant. Il y a vraiment des gens qui vont venir me voir en Chine. Et puis, il y avait des Chinois, déjà, pour commencer, qui adorent la langue française. Parce que la langue française, mine de rien, on est quand même plutôt bien apprécié ailleurs. Et puis il y avait des Français aussi qui étaient sur place en Chine, mais beaucoup de Chinois. Et franchement, ils sont au taquet, les Chinois.
C'est vrai. Vous allez retourner là?
Là, je pense que c'est pas la meilleure période pour retourner en Chine. Comment vous dire?
Ni en Russie ni en Ukraine. 10h54, c'est l'heure des stories de Marc-Antoine Lebray. Comme tous les jours, on a des stars qui viennent pour rencontrer notre invité ce matin, Suzanne. Philippe Catherine, qui a gagné Victoire de la musique la même année que vous, il est ici.
Oui, salut Philippe. Oh, salut. C'est Philippe. Salut Suzanne, c'est Catherine. Enlève ta moustache. On dirait un tuto de Gomez et Vignali.
Oh. Oh.
Remets ta moustache. Oh, 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 oh. En tout cas, Suzanne, si on fait un duo, on pourra se faire une pastille sur Canal+. Catherine et Suzanne. Oh
hey. Et puis on en a parlé, ça a choqué, il est interdit aux moins de 18 ans sur YouTube. Philippe Devilliers réagit à l'un de vos textes, le texte de Clint Eastwood.
Bonjour, Philippe Bandel, ex-animateur du journal du Hard, une émission décadente, un spectacle de dépravé, dont je ne manquais cependant pas un numéro, uniquement parce que j'aime les grandes actrices. Mes frères Philippe, je salue votre retour sur le droit chemin. Peut-on en dire autant de Suzanne ? Vous chantez le site « La main dans mon jean, je touche au monde magique. Je suis à deux doigts de te sentir sur mes lèvres. » C'est pas que ça me choque, c'est juste que je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Qui est ce dénommé Clit ? Vous me dites, si je me trompe, le monde magique, c'est le petit Jésus. Et les deux doigts sur les lèvres, c'est pour manger l'hostie. C'est ça, j'ai bon.
Mais oui, monsieur Devilliers. Vous allez le retrouver cet été dans je ne sais plus quel festival. Il est là avec nous, Aurel San. Ouais. Super heureux d'être là.
Ouais, c'est cool. Non, moi, c'était pour dire à Suzanne que son titre, La Flemme, c'est du plagiat. Ouais, parce que moi aussi, j'ai une chanson qui s'appelle La Flemme, mais moi, j'ai eu en plus la flemme de l'écrire et de l'enregistrer. Je te ferais bien un procès, mais bon, la flemme quoi. Par contre, Vandel, ça fait deux fois que tu me fais le coup de me tirer du lit à 11h. Je suis encore dans mon pilou Dragon Ball, pas cool quoi.
Merci beaucoup Marc-Antoine Lebray, je vous dis à demain. Et vous savez quoi, je voulais en parler de la flemme. C'est peut-être le titre de vous que je préfère, il est totalement hors norme et hors répertoire. La flemme, Suzanne, quelques notes.
C'est à cause d'elle si je me mate des séries toute la journée. Demain, je promets que j'irai faire les trucs que j'ai toujours pas fait. La flemme.
J'adore ce titre. Je n'ai pas la flemme de dire qu'on se retrouve demain à 9h pour Culture Média. On va parler d'une adaptation des Liaisons dangereuses de Chaudelot de Laclos, mais sur Netflix. Nous serons avec sa réalisatrice et scénariste Rachel Suissa. Et puis j'en ai parlé, l'auteur Christophe Blin, pour cette BD absolument passionnante qui parle du climat sans être chiante. Ça s'appelle Le Monde sans fin. Juste après le flash, Julia Vignali, Mélanie Gomez, bien fait pour vous. D'abord bonjour.
Bonjour.
Et ensuite,
Philippe.
Le programme du jour.
Ça va vous plaire aujourd'hui, j'en suis sûre.
Ça nous plaît tous les jours.
Oui, mais aujourd'hui particulièrement, on va se poser la question, et si on évitait les bobos de l'été ? Ils vont faire leur grand retour. Je parle des classiques qu'on connaît tous, le mal des transports, oui, les piqûres en tout genre, les cystites, les jambes lourdes. On va leur faire la peau aujourd'hui, comment les éviter, comment les traiter. On va prendre soin de tout ça.
Et puis on va parler aussi de notre dressing avec 5 basiques, on devrait pouvoir avoir toutes les tenues nécessaires dans nos placards. C'est en tout cas le pari que l'on prend aujourd'hui avec Édouard Dutour du magazine Elle. Et puis nous irons faire du paddle sur la Seine. Voilà.
Merci
beaucoup.
Paddle,
c'est un beau programme.
Ça va bien ensemble. Bonne journée à l'écoute d'Europe 1. Merci encore Suzanne. Salut, à demain.